vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Call of Duty Vanguard. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du news concernant GTA Online. On parlera ensuite du news technologie avec la Chine qui a créé une intelligence artificielle capable d'inculper les gens pour des crimes. Et on finira avec les quelques petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le jeu Call of Duty Vanguard. Donc c'est un jeu vidéo de tir à la première personne qui est jouable en solo et en multijoueur. Il a été réalisé par Dave Swenson et Joss Bridge, scénarisé par Stephen Rhodes, Sam Maggs et Toshi Onyebushi, avec la musique que vous entendez de Beer McCreary. Le jeu a été développé par Sledgehammer Games et Treyarch pour le mode zombie et édité par Activision. Il est sorti le 5 novembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Microsoft Windows. Il s'agit du 18e épisode de la série des Call of Duty qui a été débuté en 2003 et cet opus signe le retour de la franchise durant la période de la Seconde Guerre mondiale, exploité pour la dernière fois en 2017 avec Call of Duty World War II. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 14 sur 20 de la part de jeuxvideo.com et de 6 sur 10 de la part de Gamekult. Donc tous les ans, c'est la même question qui revient, que vaut le nouvel épisode de la saga Call of Duty ? Et cette question, vous avez raison de vous la poser de nouveau, car la franchise de shooters solo et multi a fait un pari risqué, revenir sur le terrain de la Seconde Guerre mondiale qu'on a vu, revu et re-revu, notamment dans l'excellent Call of Duty World War II il y a tout juste 4 ans. La question est donc de savoir si cet épisode Call of Duty Vanguard sait se distinguer de ce que l'on connaît déjà, à travers sa campagne solo, son multi compétitif et son mode zombie en coopération. Dès son début, la campagne solo de Vanguard promet d'envoyer du lourd. On est ici à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est en feu, bombardée, et un petit groupe de soldats d'élite auxquels on appartient traque un haut dignitaire nazi. Et tandis que le Troisième Reich vient d'imploser et qu'Hitler s'est suicidé il y a quelques heures, ce personnage sévère en costume SS n'a ni l'air attristé ni défaitiste et tente surtout de fuir de Hambourg en emportant avec lui une petite mallette qui renferme le mystérieux projet Phoenix. Manque de bol, quelques dizaines de minutes de jeu plus loin, notre groupe se fait capturer et se retrouve en tôle, interrogé par les nazis. Et c'est là que le pitch de base, au demeurant séduisant, laisse sa place à quelque chose de beaucoup plus classique et de convenu. Car il est important de le préciser, Call of Duty Vanguard ne vous proposera pas vraiment de vivre les premières missions des forces spéciales. Non, en réalité, on va surtout revivre sous forme de flashback les batailles clés du conflit, en incarnant tour à tour les membres de cette fameuse unité. La structure de la campagne est donc relativement hachée et se compose en très grande partie de souvenirs de guerre qui durent chacun d'une demi-heure à une heure. Au sein de ces derniers, on va à chaque fois changer de lieu, de personnages jouables et de batailles. Le côté positif, c'est que l'on voyage et qu'on a l'impression, en bouclant la campagne, d'avoir aidé les alliés à gagner sur tous les fronts, de Stalingrad au petit village de France, de l'Afrique du Nord au Pacifique et tout droit jusqu'à Berlin. Le dépaysement fonctionne bien, d'autant plus que ce Vanguard sait se faire plutôt soigner sur son solo, malgré un aspect technique qui commence à dater. En revanche, le côté négatif de ce découpage scénaristique, c'est qu'on ne prend pas vraiment le temps de s'attacher à nos personnages, ni même de les connaître. Les batailles défilent, s'enchaînent, et en dehors de l'ancrage historique, souvent introduit par de superbes cinématiques en images de synthèse, le cahier des charges s'avère en général des plus classiques. Défendre des positions, mener une percée dans les lignes ennemies, détruire de l'artillerie, se frayer un chemin discrètement ou bien survivre face à des blindés. La nouveauté, c'est qu'ici, on nous sert cette recette ancestrale aux quatre coins du globe, avec parfois un petit soupçon d'originalité. Au fil des missions, on constate aussi que le solo de Vanguard a un peu de mal à trouver sa place au sein de la saga Call of Duty. Il est par exemple bien moins cru qu'un World War II au sujet des horreurs de la guerre, bien moins intense à parcourir qu'un Modern Warfare et bien moins audacieux que le solo de Cold War. Vanguard, lui, semble piocher ça et là ses inspirations, mais ne sort jamais des clous. Sa réalisation ne fait pas de vagues et manque de spectaculaire quasi-signature de la franchise. On reste donc sur notre fin côté surprise et situation épique ou innovante. Et le constat est encore pire côté scénario, lequel ne surprend jamais, qui creuse inégalement ses personnages et offre un dénouement finalement assez décevant. La campagne rate donc sa cible sur de multiples points et c'est franchement dommage, car il y avait clairement de quoi faire. Polina Petrova et son arc narratif est un parfait exemple de ce qu'on aurait aimé découvrir pour chacun des quatre protagonistes. À la rigueur, Wade Jackson, le pilote d'avion, dispose lui aussi dans une moindre mesure d'un arc narratif appréciable en matière de séquences parcourues, même si son scénario est peu mis en valeur. En revanche, les deux autres membres de l'équipe, Arthur, le chef d'escouade, et Lucas, le sapeur, sont chanceux tant leurs épopées respectives sont dénuées d'enjeux. On note donc très nettement une grosse différence de traitement narratif entre Polina et les autres membres de l'équipe, ce qui est dommage. Et puis d'un point de vue purement technique, le moteur ne semble pas avoir trop bougé depuis Modern Warfare et commence à accuser un certain retard depuis l'arrivée des consoles de nouvelle génération. Sur PS5, le jeu tourne constamment en 120 images par seconde sur la totalité des modes de jeu, ce qui assure un certain confort de fluidité à défaut de nous arracher la rétine. On saluera en revanche le sound design remarquable qui fait particulièrement honneur aux armes d'époque mais aussi à la bande-son signée Beer McCreary, le compositeur derrière God of War, Battlestar Galactica, Snowpiercer ou encore Fondation, nous propose ici des compositions très agréables et particulièrement adaptées aux missions en Russie. Toujours en ce qui concerne la technique, on remarquera régulièrement entre deux fusillades que les intelligences artificielles déploient des comportements inadaptés, hésitant parfois entre tirer, se mettre à couvert et changer de position. La raison est simple, les maps étant ici plus ouvertes qu'auparavant, on est bien plus souvent en mouvement dans les arènes. C'est certes un peu un plus pour la liberté d'action du joueur, mais ça a tendance à déboussoler les soldats ennemis qui parfois ne savent plus vraiment comment se placer lorsqu'on les approche de trop. Et puisqu'on évoque les sensations de jeu en solo, parlons de ce qui fait de vos spécialistes des soldats uniques, leur atout de gameplay. Donc Polina peut par exemple escalader des murs, mais ne pourra le faire qu'à des endroits clairement définis et délimités. Le pilote peut quant à lui ressentir la présence des ennemis, ce qui l'aide dans les séquences où il faut être discret. Le sapeur peut porter plusieurs types d'explosifs, ce qui en fait grosso modo un combattant classique qui a juste plein de grenades sur lui. Quant au chef d'escouade, il peut, lors de très rares occasions, donner des ordres d'attaque, mais encore faut-il que vos alliés soient efficaces et rapides, sans quoi vous devrez faire le travail vous-même. De toute manière, ces nouveautés de gameplay n'interviennent qu'à des moments spécifiques de la campagne et tiennent donc plus du léger gimmick que de la véritable innovation. En dehors de ça, sur son feeling brut de gameplay, Vanguard s'avère très bon. Les armes ont du répondant, le recul est bien plus présent qu'auparavant et notre personnage dispose de mouvements cohérents. Le studio enrichit ici le gameplay introduit par Modern Warfare, plus tactique et plus vertical, avec un nouvel ajout, le tir à couvert. On oubliera vite cette fonctionnalité peu satisfaisante finalement pour apprécier pleinement un panel de mouvements déjà très solide, marche, déplacement accroupi, sprint simple ou tactique, escalade des rebords, glissade, mécanique de Molt and Lean qui permet de poser son arme sur un coin de mur ou sur un objet pour la stabiliser. Jamais Call of Duty n'aurait aussi bien bougé que sur Vanguard. Voilà, on va faire une petite pause dans ce tête pour écouter une musique extraite de l'OST du jeu Call of Duty Vanguard. C'est Bloodlust, le thème principal dans la version alternative composée par Beer McCreary, et on revient juste après. We'll be right back. Donc c'était Bloodlust, le thème principal dans la version alternative du jeu Call of Duty Vanguard, composé par Beer McCreary. On va maintenant continuer à parler de ce test. Donc côté multijoueur, les playlists de cartes et de modes de jeu proposent pas mal de variétés. Il y en a pour tous les goûts. Toutefois, les joueurs de Modern Warfare et de Cold War retrouveront un contenu sensiblement similaire sur Vanguard, map mise à part. Au rang des nouveautés, le jeu embarque un système permettant de vous trouver des parties en fonction du rythme de jeu que vous cherchez, allant des affrontements de masse, pas prise de tête, en 24 contre 24 par exemple, jusqu'au combat en comité restreint, favorisant alors la tactique et les duels tendus. Les cartes du multi sont au nombre de 16 au lancement et offrent une esthétique plutôt variée, inspirée du solo, avec quelques cartes exclusives. Elles sont globalement bien designées, profitent souvent de la verticalité et bénéficient parfois du nouveau moteur de destruction. Avec lui, on peut totalement défigurer une map adaptée en quelques minutes de fusillade, map sur lesquelles on trouvera assez naturellement de nouvelles lignes de tir, qu'on va d'ailleurs très facilement se créer, en cassant par exemple un carreau ou en tirant sur une planche de bois. Concernant le multijoueur donc, nous sommes globalement en terrain connu avec des modes très classiques, du free-for-all, du match à mort par équipe, l'habituel kill confirmed, le mode domination, le recherche et destruction, ou encore le mode hardpoint. Et même si de nouveaux modes devraient arriver prochainement de manière gratuite, on a tout de même dès le lancement quelques nouveautés à essayer, à commencer par le mode patrouille. Donc ici, le principe est simple, il faut capturer une zone circulaire et la tenir le plus longtemps possible pendant qu'elle se déplace lentement sur la map. Enfin, abordons l'incontournable nouveauté de Vanguard, le mode champion de la colline. Exploitable en duo et en trio, ce mode permet à plusieurs équipes de s'affronter simultanément dans de petites arènes. Au centre, le hub où les éliminés peuvent observer la partie et où les vivants vont de temps en temps pouvoir se réapprovisionner. Au bout de quelques instants de répit, chaque équipe en affronte une autre. Les scores se mettent ensuite à jour en fonction des éliminations dans chaque round. Donc après les affrontements, le classement général évolue, évinçant les plus faibles pour faire grimper les plus forts. En une dizaine de minutes, tout est plié, les finalistes blindés de loot et armés jusqu'aux dents se livrent donc un ultime duel. Champion de la colline est un mode qui demande du sang-froid, de la tactique et qui permet de belles remontées inespérées. Je précise au passage que pour tout son pan multijoueur, le crossplay entre PC et console est bien évidemment activable. Également du côté de la progression, on retrouvera comme d'habitude une ribambelle de missions, de défis et d'armes à faire monter en grade, de killstreams également à débloquer, d'équipements tactiques à perfectionner, ou encore d'opérateurs de terrain disposant chacun de leur propre arbre de progression. Vous connaissez la générosité de Call of Duty côté contenu déverrouillable, donc comme d'habitude, à chaque partie ou presque, les augmentations de niveau se succèdent et les nouveaux éléments débloqués pleuvent. D'ailleurs, pour Vanguard, le studio a bien veillé à l'intégration d'un nombre conséquent d'éléments, même si la Seconde Guerre mondiale limite le champ des possibles. Ici, on compte plus de 30 armes, mais surtout plus de 200 accessoires. Et évidemment, un Season Pass accompagnera votre progression, de quoi avoir encore plus d'objectifs à atteindre. Bref, côté progression et leveling, il y a clairement de quoi faire. Et enfin, comment passer en revue la copie d'un Call of Duty annualisé sans parler de son mode zombie, la partie préférée des amateurs de coopération en local ou en ligne. Commençons donc en douceur par l'ambiance et le scénario. Donc dans le zombie de Vanguard, nous plongeons dans les limbes des sciences occultes. En résumé, un ténébreux nazi s'associe avec un non moins ténébreux démon pour lever une ténébreuse armée de morts-vivants. Face à lui, les courageux alliés s'associent de non moins courageux démons qui leur assurent courage, cela va de soi, et lèguent au passage différents pouvoirs. On va donc mener ce combat seul ou en groupe, au sein de maps connues mais revisitées pour l'occasion. Rien de bien original pour l'instant et le recyclage est clairement de mise. En revanche, c'est sur la structure de jeu que le mode zombie tente d'innover, en s'inspirant de Roguelite et en citant volontiers Hades. L'équipe s'est amusée à concevoir un système de jeu authentique avec au centre une zone d'achat et d'amélioration. Tout autour, différentes parcelles que l'on pourra débloquer et exploiter. Et pour récupérer les ressources nécessaires ainsi que les différentes monnaies à dépenser dans la base, il vous faudra partir en expédition en traversant plusieurs portails qui vous envoient vers des missions multiples. Le côté roguelite s'exprime alors sur deux pans. D'une part, les pouvoirs achetables, actifs ou passifs, qui sont ici aléatoires. Et d'autre part, c'est à vous de choisir quel portail vous souhaitez emprunter. À la sortie, il peut s'agir par exemple d'une attaque éclair à laquelle on va survivre et revenir au hub les poches bourrées de pesos. ou bien d'une transmission dans laquelle on doit rester proche d'une tête maudite qui se balade lentement sur la carte. Une version zombiesque du mode patrouille, en somme. Après chaque expédition, on revient à la base pour améliorer notre équipement et explorer un peu plus, mais si sur le papier tout cela a l'air franchement super, dans les faits en revanche, le contenu manque cruellement. Après une quinzaine de minutes de jeu, on arrive à la vague 5, et le titre nous propose alors de nous exfiltrer vers un ultime portail pour quitter Stalingrad. Sauf que si l'on réussit la manœuvre, c'est tout simplement victoire et mission accomplie. A contrario, si on refuse, on devra enchaîner sur une nouvelle grappe de 5 niveaux, plus difficile certes, mais dotée d'un contenu relativement similaire. Pour l'instant, c'est donc à peu près tout ce qu'a à proposer le mode zombie, de la survie face aux morts-vivants à travers une poignée d'épreuves. Le lore se limite à quelques messages audio, il n'y a aucune construction à réaliser, aucun secret à percer et la trame globale est tout simplement absente au lancement du jeu. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre en achetant un Call of Duty, généralement bien fourni, et les développeurs nous ont assuré que les premiers easter eggs du mode zombie devraient arriver avec la saison 1. Pour l'instant, le mode est donc une sorte d'early access, certes prometteuse, mais diablement pauvre en contenu. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a un multi qui est solide, varié et complet, avec les deux nouveaux modes patrouille et champion de la colline qui offrent de très bonnes sensations, un attirail complet et recherché avec de vastes options de customisation, les destructions de terrain qui sont utiles et efficaces, le sound design qui est au top et la bande son signée Beer McCreary qui propose de très beaux arrangements sur la campagne du front de l'Est, et on a un panel de mouvements riche et un gunplay très agréable, avec un bon recul et de bonnes sensations de tir. Pour les points faibles, on a une campagne qui déçoit beaucoup, avec une écriture et un scénario en retrait, une mise en scène qui manque de peps et des missions trop peu variées dans leurs objectifs. On a également des intelligences artificielles à revoir, un enrobage technique de plus en plus limité en multijoueur, un multi qui globalement ressemble beaucoup aux deux opus précédents, et un mode zombie en early access. La boucle de gameplay se termine en 15 minutes et ne propose en lancement aucune trame ni aucun secret. Voilà, donc on va pouvoir tout de suite s'écouter une autre musique extraite de l'OST du jeu Call of Duty Vanguard. C'est Showdown, composé par Beer McCreary, et on revient juste après. Donc c'était Showdown, une musique extraite de l'OST du jeu Call of Duty Vanguard qui a été composée par Beer McCreary. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo et une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. A tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5, un jeu de Sony. Et donc après on a que des jeux sur Nintendo Switch et que des jeux de Nintendo. Avec en 4ème place Pokémon Diamant Étincelant. En 3ème place Animal Crossing New Horizons. En 2ème place Mario Party Superstars. Et en 1ère place Mario Kart 8 Deluxe. Le top 3 pour la PS5, on a en 3ème place Call of Duty Vanguard, en 2ème place Spider-Man Miles Morales, et en 1ère place Ratchet & Clank Rift Apart. Le top 3 pour la Xbox Series, on a en 3ème place Call of Duty Vanguard, en 2ème place Halo Infinite, et en 1ère place Forza Horizon 5. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition. En 2ème place, c'est Call of Duty Vanguard et en 1ère place, FIFA 22. Le top 3 pour la Xbox One, on a en 3ème place Battlefield 2042, en 2ème place Call of Duty Vanguard et en 1ère place, FIFA 22. Le top 3 pour la Nintendo 3DS, on a en 3ème place Super Mario 3D Land Select, en 2ème place Super Mario Maker Select et en 1ère place, c'est Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Select. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place Microsoft Flight Simulator, en 2ème place The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, et en 1ère place c'est Farming Simulator 22. On passe maintenant à la news jeux vidéo. On le sait, GTA Online est la poule aux œufs d'or de Rockstar, qui permet à GTA V de s'entretenir aussi longtemps, et si la version PS5 et Xbox Series occasionnait une nouveauté de taille. Donc comme souvent quand il s'agit de Grand Theft Auto, on doit l'information du jour à un leaker, ici Matthäus Victor BR, spécialisé dans l'univers Rockstar qui détiendrait de potentielles informations croustillantes. Celui-ci affirme une chose haut et fort, les développeurs prépareraient trois choses incroyables pour GTA Online. Et bien qu'il ne puisse pas en dire plus forcément, le public doit s'attendre à faire ses bagages cette année. En un tweet, l'internaute évoque ainsi une nouveauté inédite, GTA Online compterait proposer un nouvel environnement prochainement. Donc quand on y pense, cette théorie n'est pas idiote, puisqu'avec l'arrivée de GTA V sur PlayStation 5 et Xbox Series, Rockstar aurait tout intérêt à faire du neuf avec du vieux pour alimenter sa communauté. Si Grand Theft Auto V est toujours d'actualité alors qu'il est sorti en 2013, imaginez-vous, ça fait déjà 9 ans, et qu'il s'apprête à traverser 3 générations de consoles, rien que ça, c'est bien grâce à une chose, GTA Online, son fameux mode multijoueur. Un jeu dans un jeu, toujours très populaire et savamment entretenu par ses concepteurs, qui n'a pas prévu de faiblir de sitôt. Et forcément, là où GTA V va, GTA Online suit de très près. L'arrivée du jeu sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft serait donc l'occasion pour Rockstar de proposer quelque chose d'inédit, de façon à justifier l'achat et rafraîchir sa formule. Serait-il possible que l'on ait un avant-goût d'un territoire de GTA 6 en faisant par exemple une excursion à Vice City ? Donc je rappelle qu'a priori, le 6ème épisode toujours très nébuleux de la saga ne serait pas attendu avant des années. De facto, il va bien falloir que GTA Online tienne en haleine son public. Le déploiement d'une nouvelle carte serait donc plutôt pertinent et la PS5 et la Xbox Series sont une main tendue pour dynamiser son activité. Affaire à suivre donc. On passe maintenant à la news technologie. La Chine a une imagination très débordante. En effet, des chercheurs chinois affirment avoir mis au point une nouvelle intelligence artificielle qui peut juger, accuser et même envoyer en prison des personnes reconnues coupables de crimes. Cette invention est la première au niveau mondial puisqu'elle peut identifier la peine à laquelle la personne est condamnée. L'État de Shanghai affirme que ce dispositif sera très utile car depuis sa phase de test, il aurait déjà jugé plus de 8 infractions courantes en Chine. Donc en Chine, une nouvelle intelligence artificielle peut donc maintenant juger et envoyer des personnes en prison. Les chercheurs qui ont mis au point cette technologie affirment que ce dispositif est capable d'apporter une précision de plus de 97%. Elle aurait également été conçue pour traiter plus de 17 000 dossiers. La cour de Shanghai a testé cette machine et l'a entièrement validée. D'ailleurs, le tribunal de Shanghai affirme que cette technologie peut identifier les 8 crimes les plus courants de la ville, tels que la conduite dangereuse, les fraudes par carte de crédit, les jeux d'argent et d'autres infractions. Plusieurs districts de Chine ont également testé la machine et ont été satisfaits. Certains attendent d'ailleurs une version améliorée de cette intelligence artificielle. Cependant, même si c'est une intelligence artificielle, il y a toujours des possibilités d'erreur. Les chercheurs chinois indiquent effectivement une précision de 97%. Cependant, le risque d'être induit en erreur reste élevé. La machine a été conçue pour réduire les heures quotidiennes des procureurs afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches plus difficiles. Donc même si cette intelligence artificielle a l'air d'être très appréciée, certains procureurs sont contre son utilisation. En effet, ces procureurs pensent qu'elle n'est pas bénéfique et qu'elle réduit juste le temps de travail des avocats et des magistrats. Ils s'opposent ainsi au fait d'avoir plus de 7 ans d'études en droit et d'être ensuite remplacé par une machine intelligente, c'est vrai que c'est un peu con, qui peut faire sortir en quelques secondes les données acquises durant leur parcours. D'ailleurs, il y aurait une forte possibilité d'erreur avec un grand risque d'usage de fraude, puisque c'est la machine qui examinera les preuves et le témoignage des victimes. Une petite modification peut donc changer toutes les éventuelles décisions que la machine prendra. Donc, affaire à suivre pour voir si ça sera adapté nationalement ou pas du tout. Ou voilà. Du coup, on va pouvoir finir maintenant l'émission avec les sorties jeux vidéo de la semaine. Donc, on n'en aura pas beaucoup. Une sortie aujourd'hui, vendredi 21 janvier, avec Baby Storm sur Switch. Une sortie pour lundi 24 janvier sur PC avec Hidden Deep. Une autre sortie sur PC pour mercredi 26 janvier avec Diplomacy is not an option. Et enfin, la dernière sortie de la semaine, ce sera pour jeudi 27 janvier avec Hotel Life Resort Simulator qui sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h comme d'habitude sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.